En ce qui concerne les victimes en général, on a un nombre de garçons et de filles qui est important. En ce qui concerne les victimes de prêtres, quantitativement, on a plus de garçons que de filles. Ça veut simplement dire que les prêtres sont souvent mis en responsabilité d'animer des groupes de garçons. On va avoir des femmes qui vont s'occuper des groupes de filles, et puis le prêtre ou les hommes qui vont s'occuper des groupes de garçons. Donc ça veut dire simplement ça. Puis ça veut dire aussi, mais ça c'est lié plutôt à l'origine chez eux de la formation de leurs troubles, que peut-être eux-mêmes ont été soit abusés par un homme étant enfant, ou alors il y a une immaturité sexuelle qui s'est développée à la période adolescente chez eux, lorsqu'ils étaient dans des structures de pensionnat.
Père Joulin, est-il possible de dessiner un profil psychologique des victimes ?
C'est une question un peu délicate qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, parce qu'il me semble qu'il ne faudrait pas en arriver à ce que cela soit utilisé pour justifier des actes pédocriminels, en blâmant encore une fois les victimes, comme j'ai pu l'entendre récemment encore dans la presse en France. Ce qu'on peut dire en ce qui concerne les victimes de prêtres, c'est que tout prédateur fonctionne pareil. Il va essayer d'isoler le membre qui lui semble le plus facile d'accès dans l'environnement qui est le sien. Mais là encore, je dis, c'est une question à prendre avec beaucoup de prudence, parce que l'abuseur reste l'abuseur et c'est lui l'auteur du crime, quoi.
Quelles sont les conséquences des actes d'abus sexuels pour les victimes ?
Savoir, c'est que bien souvent, les abuseurs sont des gens qui ont été abusés eux-mêmes étant enfants. Alors abusés soit sexuellement, soit maltraités physiquement, soit ayant des parents très intrusifs. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a été victime va forcément devenir un abuseur. La majorité des gens qui ont été victimes ne sont pas devenus des abuseurs. Parce qu'il y a un élément important qu'on appelle résilience, qui fait qu'à un moment dans leur vie, ils vont rencontrer quelqu'un, une structure, une personne ou autre, qui va avoir confiance en eux, qui va leur montrer un véritable amour sincère et qui va leur permettre de redémarrer. Mais ce que l'on peut constater chez beaucoup de victimes d'abus sexuels, ce sont par exemple, quand ce sont des enfants, des retards de croissance assez graves, des physiques, des enfants qui ne grandissent plus ou qui ont des retards dans le développement du langage, qui sont un peu rachitiques. Et quand il y a une prise en charge thérapeutique, on voit que ça va beaucoup mieux. Alors il y a aussi le développement pour les victimes de troubles anxiophobiques, angoisses et autres, des troubles du sommeil, des peurs de la sexualité. La sexualité peut faire peur et ça les empêche de rentrer dans une relation saine adulte. Une très forte mésestime d'eux-mêmes, parce qu'ils doutent d'eux-mêmes, ils sont enfouis dans beaucoup de culpabilité. Alors chez certains, ça va tourner aussi, surtout à l'adolescence, à l'anorexie, à la boulimie, voire à la scarification, on se taillade les bras, les jambes, il y a des tentatives de suicide, des conduites à risque, ça peut aller dans des développements de certaines maladies auto-immunes, certains types de cancers, par exemple on a vu des personnes qui ont été abusées ou autres développer des cancers des appareils génitaux, ou cancers du sein ou autres. Ça peut aller jusqu'à des addictions aussi, des gens qui tombent dans la drogue, des ruptures psychotiques, et puis surtout des pertes de confiance envers l'autre, incapacité à faire un lien durable, et puis perte de confiance aussi envers l'autorité, envers les institutions, et puis d'un point de vue aussi de leur foi, quand l'abus a eu lieu dans un cadre religieux, une des conséquences, c'est l'abandon de la foi ou le départ de l'Église, le rejet de Dieu et du religieux.
Est-ce qu'on peut arriver à soigner les victimes d'abus sexuels ?
Bien sûr, on arrive à les soigner. Il y a des centres de thérapie, il y a des thérapeutes en France qui ont été formés à ces questions-là, et dans lesquels on a de belles choses qui se passent. On a des gens qui reprennent confiance dans la vie, qui redémarrent un plan de carrière, qui avancent. Chez les enfants, c'est intéressant, au sein des Buttes Chaumont, par exemple, on voit bien les enfants qui se remettent à grandir, qui ont de nouveau des bons résultats scolaires. Oui, bien sûr, on peut sortir et on peut guérir de ce genre de blessures. Oui.
L'Église peut-elle aider à soigner les victimes d'abus sexuels ?
L'Église peut aider, mais il faut peut-être qu'elle réorganise son ordre de priorité. Un des problèmes dans l'Église catholique, c'est qu'on veut partir directement du pardon et puis aussi aller vers la réconciliation. Ces questions du pardon et de la réconciliation viennent vers la fin, comme une condition désirable, comme un objectif à atteindre peut-être. Mais dans le cadre du travail de thérapie, il faut pouvoir permettre aux victimes de découvrir l'injustice de ce qui leur est arrivé. Il faut les soutenir dans les demandes de justice et de réparation. Et il ne faut surtout pas leur imposer le pardon. Vous savez, pour une victime, il n'y a rien de plus terrible que de s'entendre dire par une autorité religieuse « Ah mais vous savez, mon enfant, Dieu lui a pardonné, il faudra bien que vous lui pardonniez aussi ». Donc on a une espèce de culture dans l'Église catholique, qui est liée à l'Évangile, mais aussi au droit canon, à la culture théologique, qui fait qu'on est très préoccupé de la récipiscence du pécheur. On est très préoccupé par la conversion, par le changement des routes du mal, pour demander pardon, avancer, se réconcilier. Mais ce qu'on oublie dans le cas de ces victimes, c'est que la première chose, il faut qu'elles aient justice et réparation. Et bien souvent, il va falloir traverser la colère, même la colère envers Dieu, savoir dire à Dieu, mais où étais-tu quand j'étais abusé? Il faut aider les victimes à passer par là. Il faut traverser cet enfer qui a été le leur avec elles pour pouvoir dire, au bout du compte, oui, ce qui t'est arrivé est insupportable. Oui, ce qui t'est arrivé est insupportable à Jésus. Des fois, quand j'entends parler dans l'Église catholique, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde de bisounours où tout le monde est gentil, tout le monde va au paradis. Alors, vous savez, pour une personne qui a été abusée, de s'entendre dire que tout le monde ira au paradis, que tout le monde est aimé de l'amour de Dieu et de la miséricorde, c'est lui dire qu'elle va se retrouver dans l'éternité avec son abuseur, c'est insupportable. Donc, il faut pouvoir traverser tout ça. Et l'Évangile est riche pour pouvoir aider à traverser tout ça. Et alors, peut-être, au bout du compte, on va avoir un temps où... une personne va me dire, ben voilà, j'ai envie de vivre une démarche de pardon, de réconciliation. Ça peut arriver, c'est un fruit de la grâce, voilà, mais ça n'arrive pas toujours. Et il faut qu'on accepte ça. Je crois qu'il faut accepter qu'on ne peut pas imposer le pardon, mais il faut qu'on garde ça plutôt comme une visée eschatologique, quelque chose qui est à réaliser au bout d'un processus, mais qui doit colorer notre démarche aujourd'hui. Mais il ne faut surtout pas faire l'impasse sur la demande de justice pour les victimes et la réparation et la question du jugement.
Peut-on aussi soigner les auteurs d'abus sexuels? Autrement dit, peut-on soigner les pédophiles?
Si vous entendez soigner dans le sens que, voilà, on va leur faire une thérapie et après ils n'abuseront plus jamais personne parce que la pulsion ou leur orientation dans cette différence sexuelle va disparaître, je vous dis tout de suite non. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on peut apprendre à vivre avec et apprendre la continence. Et c'est plus fréquent chez les prêtres, qui sont en général des gens assez intelligents, où on peut arriver à travailler sur la dimension du bien et du mal, sur la cesse, sur la discipline, sur l'abstinence. C'est un peu aussi comme, vous savez, un processus pour un alcoolique. Un alcoolique ne guérit pas de son alcoolisme, il apprend à être continent, il apprend à s'abstenir, et il prend une journée à la fois. Ben, le travail auprès des abuseurs sexuels, il est de cet ordre-là aussi, c'est de dire, voilà, c'est un jour à la fois, et on avance, et on apprend l'abstinence et la continence, et on avance. Mais comme pour un alcoolique, il faut que ces personnes-là évitent de se mettre en situation dans laquelle ils pourraient récidiver, c'est éviter d'aller dans les lieux où il y a des enfants, veiller à l'équilibre de vie, de façon à ce que ces personnes ne tombent pas dans des épisodes dépressifs, qui sont souvent des moments de passage à l'acte, savoir aller prendre les plaisirs légitimes là où ils sont, savoir découvrir que dans la vie, il peut y avoir des plaisirs, mais qu'ils ne doivent pas être... aux dépens des autres et rester dans les bonnes mœurs. Oui, il y a tout un travail qui peut être fait et qui peut aider ces personnes-là à vivre avec leurs problèmes.